When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, ne bougez pas, je reparle français dans une seconde. Hey everyone, I'm Patrick Béja and this is the Phileas Club. We're doing a special show today. We talked about being living in Minneapolis last week with Gunnar, and I thought it would be interesting to get the perspective of Black people who have lived or who live in France as well. So we're going to be doing a dual language episode. The first part will be in English, as usual, and we're going to do a second part in French for the French speakers who might be interested in this topic, especially nowadays. So I'll explain this in French and then move on to the actual show. On va faire une émission d'abord en anglais et puis en français. Il y a la partie peut-être un peu plus courte qui sera en français. Vous avez le time code dans les notes de l'émission. Donc, si vous ne parlez pas assez bien anglais, je vous encourage à aller regarder, à aller écouter la partie en français qui est dont le time code est dans les notes de l'émission. Et on se lance maintenant dans l'épisode de la partie en anglais. All right, so I hope you enjoyed my speaking French. I'm sure it sounded incredibly sexy and romantic, so thank you for letting me know on Twitter. No, I'm kidding. The important thing is we're going to be talking. I'm trying to be a little bit lighthearted. And what's been happening in the past, obviously, a few days and couple of weeks has made that difficult, so I don't know how to find the right balance. I guess the right balance is for me to shut up. So I'll do a quick intro and then I'm going to try to shut up as much as possible. This show is about talking about different topics with people from different cultures and backgrounds, people from around the world. We do this show every month or so and we talk about the news and try to get different countries' opinions on what's happening in the world. And that's what we usually do, not on a specific topic. Obviously, nowadays, everyone's talking about matters of equality and the Black Lives Matter movement. And I wasn't sure exactly what to do or how to approach this. And as I did last week, I think the best way to do it is to give a little bit of the small platform I have to people who have been experiencing these things. So today, I'm very glad to be welcoming three people. First is my old friend, Yann Allais. How's it going, Yann?
It's going pretty well. It's a bit nerve-wracking because I think this is the first time I'm recording a podcast in English. Oh. So like, I try my best to hide my accent. But yeah, I'm pretty happy to be here.
Thank you for being here, Yann. So for you, I'm kind of used to speaking with you, so that's going to be easy. I'm also welcoming, thank you so much for accepting to be on the show, two of the three hosts of Le Chip podcast, which I'm sure many French listeners will have heard about. On one side, we have Mélanie. How's it going, Mélanie?
Hi. thank you, Patrick, for this invitation. It's going well. It's going well. The last few weeks have been kind of surreal, but yeah, I'm reading a lot and I'm talking with a lot of people right now, so I'm really happy to be here too.
And on the other side is Kevi. How's it going, Kevi?
Hey, Patrick. I'm doing well. Just like what Mélanie said, these past few weeks have been surreal. But professionally, I'm happy because I'm a tour guide, and for 3 months, I was not allowed to run walking tours, And now I'm back. So it's exciting, especially because I do tours of the Black history of Paris. So it makes sense right now at the moment.
So let's start with that, maybe. Can you tell us a little bit about yourselves so we have a bit of context? Let's start with maybe Yann. You lived in France and you now live in Canada. Tell us about, in a few words, about yourself.
Yeah, sure. So I am 40 years old, a Black man, light skin. I think it's important to say for what I'm going to say afterwards. I'm 40 years old, was born in Guadeloupe in the Caribbean, and I lived there for 20 years. For context, Guadeloupe is an island where 75% of the population is Black, and the rest is a mix of white and Lebanese and Indians and other races. And then I moved to Paris, where I lived for 10 years, and then I left Paris for Montreal, where I've been living for the past 10 years. Met my wife, who is also Black, light skin. We met in Paris, and we pretty much have the same path. 20 years in Guadeloupe, 10 years in Paris, and now we've been living together in Montreal.
All right. Thank you. Melanie, what about yourself?
Yes. I'm 36. I'm a journalist. I'm a biracial woman. My mother's white. My father is Black, from Ivory Coast. I grew up in the south of France, near Marseille. And it was a very interesting experience because there's a lot of multicultural population, a lot of Arabic people and North African people, but it's one of the most far right region in France. The far right party usually is very, very has a very strong hold in the region. So it's weird because there is the reality of the population of the people who live there, but yeah, the racism and the microaggression and the not so microaggression are very real and existing. Mm. And I've lived in Paris for the last 15 years.
All right. Thank you. And Kevi, what about yourself?
Yeah, me. I was born and I grew up in Martinique, another French Caribbean island, just like Yann. I lived there for pretty much 20 years, and then I moved to France to study, and I became a Parisian tour guide about 9 years ago, and about 7 years ago I decided to run these tours that are basically focusing on Black people, because there are a lot of taboos around race in France, and for me that was a way to talk about something different than just the Eiffel Tower or Notre Dame. So gradually I was attracted to, you know, activism, because if you talk about Black people or Blackness, in a way it gets political, even if you didn't want to do something political in the first place.
This episode is going to be about being Black in France, and just listening to what you have to say. And I have to admit that in the past few couple of weeks and past few days, I have been made aware of a lot of things. There were a lot of things that I was aware of that I didn't understand the gravity of until now. And it's something that I'm not very proud of. But obviously, France and the US are very different in many ways. But there's, and I don't want to make the whole show about this, but there's this one case of Adama Traoré, which we were talking about briefly, Kevi, before we started recording, which has striking similarities with that of George Floyd. We can talk about this, of course, and you'll talk about whatever you want, but I'd rather not make the whole show about that specifically, but rather about how it is to live your daily lives as Black people in the country. But that and a number of other things around it have kind of jumped at me in a way that they hadn't before. So I'm even more eager to hear what you all have to say. So obviously, if you know, you can interrupt me and talk amongst each other. But let's start maybe with Melanie. If I ask you a very broad and difficult question of what is it to be Black in France, is there any way you can describe that?
I'd say it's a very special time to be Black in France because it's the first time. Sorry, it's the first time. I feel like people who are not Black are asking themselves this question. So right now, it's like being called by your white friends and ask, "Oh, do you know what books I should read right now for the moment to understand what's happening? Do you know any podcasts? Because my friends know about my podcast, which is The Chief, which talks about race and pop culture, but they want more right now. It's like, you know, you have a huge attention on yourself right now. But usually when there's not a global and massive movement against racism, it's kind of different because a lot of Black people in France live surrounded by white people. You know, we have to know both worlds. It's like we have to know our daily life. And I work in media, for example. I work in journalism, and everything we write in the media in France is through the white lens. It's about white people, and Black people are usually on the margins. And I work in beauty and culture and movies, and everything is talked about white people. And so I don't know if I'm explaining myself but what I want to say is...
The way I understand it... Can you tell me if this is incorrect? But obviously in America, communities are much more important than in France, where we kind of have this overarching idea of the Republic. And every person in France, every citizen is a child of the Republic, equal and similar. But you get into this situation where if you take one representative of like the whole population, you end up representing the majority, which is obviously in France, white. Is that the way it works?
Okay. Yeah, especially at work, for example, it's been a very common situation when I'm the only Black person in the newsroom. So every time there's a Black question or a Black issue, everybody is asking me, "Oh, what do you think about that?" And my response is like the way all Black people in France think. So yeah, it's being Black is like being the Black representant. And it's something I'm fighting very hard in my work, because I think France has to reckon the fact that there's a lot of Black people, and their perspective is not represented well in the media.
I would love to add something else. Is the fact that when you talk about being Black in France, you feel like you're part of a category that legally doesn't exist, because we don't have real official ethnic statistics. The government doesn't really talk to communities. So officially, this group doesn't exist. But I can tell you that in some situation, whether it's at work or in some different cases dealing with the police, you get to realize that, yes, you are a Black person. I'm not saying that I have to deal with it every day, but it is something there. And sometimes I feel a little bit mad, because the majority of the population wants you to forget about it, wants you to forget about your difference, and then you will. And then you might be trapped in a bad situation where you are not really paying attention. You forget that you were a minority, and then all of a sudden it jumps into your face. I don't know if you understand what I'm saying.
Yeah, it seems, I mean, there is, I was just mentioning the, you know, child of the Republic thing. And I think the intent for the lack of ethnicity statistic and stuff like that is, you know, hell is paved with good intentions. I'm convinced the intention initially is good, is to say, we're all equal. And so even though in practice it doesn't work like that, the intent is we're all equal. And so it doesn't matter whether you're black, white, or Asian or whatever. And I remember I got someone angry at me because in French I used, because I was talking about English, I used the word race in French, and someone got angry at me and was like, oh, no yeah. races, you talk about ethnicity, right? So it's definitely present, but you're saying in everyday life, it's not, that's not how it works, right?
Not really. It doesn't work like that, especially when it comes to representation, when it comes to the way history is being told. As a tour guide specialized in Black history, when I started doing the tours, I was not so aware about Black history at all because it's not really a topic here. We don't have like Black studies in classes like in a lot of universities in America. We don't really have that. So I had to do my own research, and I was overwhelmed by the long and deep colonial French history and how, even being from a French colony, I was not so aware of it, and I was not so aware of the importance of let's say Black people in French history these past 200 years. And for me, that's part of the problem. Or that's not part of the problem, but that's like a consequence of the problem. The fact that as we do not exist as a group, it is really easy to completely erase our presence and our contribution in France.
I would like to add something to that. Just a thought, because you said it was about good intention. And I thought about that a lot, and I'm not sure it's about good intentions, because for me, it's rather an act from the French government and the French culture at large to make people forget about colonization and slavery, to make people forget it happened, because it doesn't align with the roman national, which is the official story French people tell themselves about the country, like les Lumières, the lights of the
Enlightenment,
of the Renaissance, the philosopher, the Republic, the Revolution. Which this is the history people want to remember. They don't want to remember the slavery and the colonization and the Black Code. And I think the fact that today we all say, oh, we all French, we don't see color, there's no racism in France, and we delete the race word in the Constitution, it's not because, oh, we really want to be equal and we really want for racism to disappear. It's because we want our story to be cleaned and to be cleaned of
convenient.
The stench of racism and slavery.
Do you, I'm going to ask very bluntly, do you feel racism in your everyday lives in France?
Melanie, you want to start?
yeah, I can say, yeah. So I'm very conscious about my place, in the class I'm in right now. I'm privileged because I work in a area of, I'm not working class, is what I want to say. And I know that protects me from a lot of the more overt racism, but in my work, yes, I've had people touching my hair, asking me where I come from multiple times.
Touching your hair as in like, oh, I've never seen Black person hair.
Yeah.
Can I touch it?
Yeah, I'm working like, oh, and some people is putting their hands in my hair and telling me, ooh, it's weird. Yeah, but I'm at work, dude. So yeah, don't do that. Yeah. And it's not overt racism, but it's microaggression. It's racism. It is racism, but it's not insult in the streets. It's different, but it's a more acceptable form of racism, I would say.
Kevi, what about you?
About me, I had both experiences in my professional life. Before I was a tour guide, long story short, I was supposed to become a civil servant to work as a manager in local hospitals and nursing homes. And so I had long internships in some nursing homes near Paris. And my experience there like 10 years ago was not so pleasant, I would say that. Right now in my life as a Black tour guide working on the Black history of Paris, most of my clients are Black people themselves. So a lot of this, you know, psychological pressure or load, I don't really have it. So I'm not going to say that in my everyday professional life I have to go through racism. That would not be true. But there are interactions with the police in Paris that to me are really interesting, because where I live in a pretty bourgeois neighborhood in the center of Paris, the police is mostly very pleasant when they talk to anybody, because there are a lot of powerful people in the area, so they are not going to be overtly racist or even worse. But just in a different neighborhood where I do walking tours, in La Goutte d'Or, in the 18th arrondissement, in the working class / immigrant neighborhood of Paris, the relationship with the police is the opposite. It's like black and white. It's day and night. So there is something to be told about that. When people talk about racism in the police, the police is not policing the same way everywhere in the city or everywhere in France.
Mm. Jan, what about yourself? Yeah. You were telling me you had a milder experience maybe than what you've been seeing elsewhere.
So I thought I would be the only one with this kind of story, but in a nutshell, I'm going to say, like, in my 40 years of existence, I've never really been a victim of racism. I can think of a few instances of or situation where things got a bit weird. I think the biggest one being for a job interview, or mostly for internship, where, you know, like at my school you have to find an internship at a company for your graduation. And I went to this company for internship, and I'm waiting in the waiting room, and this lady comes and sees me. And she doesn't even invite me into her office. She's just like, yeah, how can I help you? And I'm like, yeah, I'm here for the job interview. And she's like, okay. But what position? And I'm like, yeah, for an internship. And like, oh, we don't do internship here. I'm sorry, we don't do internship. And I'm saying, okay, fine, that's fine. And the thing is, in the same waiting room, there was another student from my same school. And this guy was white. And then I leave, and then a week later I see this guy, and I'm like, oh, so did you find internship? And say, yeah, to this company, like we were both waiting at. And yeah, I said, okay.
That's named racism.
Well, you know, like, you can't really prove it. Like, it's just like, okay, maybe this guy knew someone who reserved a spot for him, or maybe it's just blatant racism. Mm. But like, I cannot really, like, I don't have any evidence that prove that this is what happened. Like, if I had to make a bet, I'd say, okay, well, yeah, this is probably racism, but like, this is the closest thing that I can think of in my existence, okay, where I was victim of racism. And then, you know, like, I traveled, I went to China. China was really weird, because like, I was walking in the street, and we're talking like 2003, 2004, and like, people literally stopped in the street staring at me, like it was the first time they ever saw a black guy. And you know, that this is Shanghai, so I'm like, okay, well, it's a pretty big city, but like, I'm telling you, man, like they were just like poking their friends, say like, look at this guy. But it wasn't like they're throwing rocks at me or anything. It's just like mostly surprised to see a black person. So it was a bit uncomfortable, but again, like, nothing violent. And you know, I lived in Paris for 10 years. I was driving a BMW for 4 years, never got pulled over, never stopped by the police, asked for papers. It never happened. And I live in Canada now, in Montreal, and this never happened. My mother, though, went through hell with racism, like brutalities by the police, and horrible stories, you know. I won't get into more details about that because I did not ask her permission to share more on that. And it's very, like, private. But, yeah, like, so you know, like growing up like this and then having friends, saying, like, yeah, this is happening to me because of racism. Like, they're blaming everything on racism. And then I'm looking at my own experience, and I had a tendency to say, like, well, you know, like, is it really racism? Like it feels like it's a very easy scapegoat to focus on when everything goes wrong in your life, you know? So I was telling them that every time. And then I remember, like, very vividly that one time I said something like this, and my friend said, you know, Jan, you're light skin. You're not black. Okay. So you have no idea what you're talking about. So you better shut up. And I did shut up, and I never brought it up again. And you know, it's funny because, like, I'm remembering this, and I was watching this video of James Baldwin, famous African-American writer, who you know, he was, like, one of the big voices with Martin Luther King and Malcolm X and in the 50s, 60s. And he said that there is something very safe about being a Negro, in a way, because you can blame anything that happens to you on it. And it's the worst thing that can happen to us. So, you know, like, it's a very complex thing. And I think the truth lies in the middle, especially today, because things have evolved. But yeah, like, I cannot say that my situation, my life, is anything close to what I'm seeing on Twitter or on TV with George Floyd and all that. It's very far from that.
It seems to me like all three of you at different degrees, and I'm wondering, maybe except for Jan, which, by the way, I'm going to say this. When we were preparing the show, I was talking with Jan, and you mentioned what your experience was, and I felt I was unsure about what to do because I don't want anyone to use this as an excuse to say, well, see, everything's fine, because Jan didn't have a problem. And at the same time, it's not my place to tell Jan what to feel, obviously.
Sure.
But I would like people to keep that in mind as well. But it seems to me like all three of you at varying degrees have had, like, when we look at, well, Twitter or social media or what's happening in the US especially, you've experienced much milder forms of discrimination. Would you say that the situation is better in France than in the US? It would seem like that from what we're seeing in the media. And what is left to, not left to, that's not the right way to say it, but there are still issues of racism. I mean, I'm looking at a lot of factual reports nowadays, and I understand that it's not, you know, we haven't fixed it. So compared to the US, and then maybe what do you think about the situation in France as it is now?
I would say that it's a relevant question, because first to go back to what Jan was saying, I'm not denying his experience at all. And on the opposite, I think that two different things can happen at the same time, that some black people have a life and they never had, like, a bad interaction with the police. And thank God it's, I hope, a majority, but it doesn't mean that for a minority, it doesn't happen, and it's already too much. And when it comes back to the comparison between the US and France, at the moment, in a lot of French mainstream media, you see experts, journalists, and politicians saying, we don't want to talk about police brutality in France. You should not compare to what is happening in America. You should not ask for more visibility, more right, more protection for minorities, because first, there's no minority in France because we're all equal. And second, this is pure and simple Americanization. And what you're going to do is tribalism or communautarism in France. And there's a lot of fear and hysteria about, I don't know, like the fall of the Republic, just because we're saying that the police in France is disproportionately harassing or being too brutal to black and brown men and women. I think that's where I think the comparison is. And of course, the situation in France is not as bad as in the US. We have less guns, less violence, less homicides, but still people of color are disproportionately targeted by the police.
And yeah. Oh, sorry. Go ahead, Melanie.
Yeah, I just wanted to add, we already talked a little about that, but we have to take into account our privileges. I think, Jan, you said you're light skin. I'm light skin too. I think all three of us have class privilege. And I think, I'm not sure, I don't want to talk about living in the Caribbean because I've never lived there, obviously. But we have to think about the fact that our privileges and our environment have an influence on the kind of racism we face. And it's funny because if we compare to feminism or sexism, a lot of girls said, "Oh, I've never been a victim of any sexist acts," and usually, when you talk to them about their lives and how they define sexism, and they say, "Oh yeah, one day this happened, but it's not sexism. It was something else." And I think in our experience as people, we don't want to be paranoiac. We don't want to think it's about racism or it's about sexism. And I think when we do, it's because the act in itself wakes something in us. It's like, oh, I've never thought about this way. I don't think people are looking for racism and saying, "Oh, yes, this is racist. Finally, I can complain." I've never met someone who think like that, so I don't think it's a majority of people. But that's just what I want to say. I want to say people are usually on the conservative thinking when it comes to these acts. They don't want to be victims. That's what I want to say.
Is there anything you would like to see, like, let's say tomorrow you become, you know, God of France and you can change something about
just king.
Well, I say God because I mean you can just make things happen by wishing them.
Okay.
What would you like to see changed in the you know, community makeup, ethnic makeup, you know, relations in the country, things that you think aren't working as well as they should?
I can think of a few things. Like a few days ago, I watched documentaries on TV, which translates to Break the Code, I think, where it was a guy who was interviewing a bunch of black people living in Montreal, asking like about the code. And the code is how, as a minority, not just a black person, but as a minority, how do you change your behavior so you can fit in, you know? So it's things that white people don't see or don't think about, but something as simple as hiding your accent. I'm from the Caribbean, you know? Ooh, yeah. So, of course, I have a thick Caribbean accent. And then the moment you join a group of white people and you start speaking in French, but with obviously your accent, they start mocking you. So, like, let's say, "Oh, like this sounds African or something," you know? And so all of a sudden, and you're young, you know, like all of a sudden you're the center of attention on mockery. So your immediate reaction is to hide your accent because you're ashamed of it, because
I feel I can interrupt you because we're friends. Isn't that exactly what Melanie was talking about? Isn't that like a symptom of systemic racism?
Well, you ask what I would like, how I would like things to change. I'm not sure it's a form of racism. Maybe it's a form of racism, mm-hmm. but it's something that we have to think about constantly, like your accent or your any behavior that you have normally in your community that you need to hide when you join a different community. Like my first name is not Jan. My first name is Dude. I know that's, well, really? Let's not get into that. you know, like I changed it because it wasn't really something neutral. So I changed it to my second first name, which is Jan. So I guess that's also like when you look at my resume and you see Jan Ale, like you don't see a color there. It sounds very neutral. Mm. But if I'm thinking of other minorities, like Arabic minorities, like every time there is a bomb attack or terrorist thing, like the first thing you see in the media is those journalists going into mosque and asking them to, okay, do you condemn what happened there? You know, like, well, of course I condemn it. Like, why are you asking me? Like, why is this? So this sense that you constantly have to justify yourself because you're from the community that did something bad, therefore you're bad. So like in the first few sentence that you're saying in a conversation when you join a bunch of people, you try to sprinkle little hints that you part of them and not part of your community that has some bad history attached to it. Mm. So, and to sum everything up, I would say that, there's still so much to say, but okay. Let me tell you a story. It won't be too long, but it's the other side of the coin that I just exposed there. When I lived in Paris, two of my best friends, let's call them Alexander and Mustafa, were like very close friends. Like we hang out all the time. Alexander is white, Mustafa is Arabic, and I'm from the Caribbean. And this one time we went to the KFC and we're just waiting in the line. And, you know, I'm young and stupid, but we're good pals. So I'm asking my friend Mustafa, so, hey, nigger, what you going to get for as a menu? And he's like, I don't know, man, probably not going to get this. And then my white friend, Alexander, comes to me and said, hey, nigger, what you going to get for your menu? And then all of a sudden, instantly, like Mustafa just focuses on Alexander. You know, what did you just say? And everything got really tense instantly, where is well I pretty much said exactly what he said. Like I thought it was, and he got really nervous, really really nervous. And then Mustafa said yeah, you can't use that word, man. Like it's you can't do that. And ever since this made me realize that we live in a world where we can just decide who. Like, when is it okay to use the word and when it's not okay? And we can decide after the fact. And so, Alexander thought he was part of this group. And then all of a sudden, because he did something like this, we put him out of the group. So...
But you understand why this, he was... you understand why he was put out of the group, right? Or not put out?
Well, no, because I used the word and as... a synonym of friend, because that's what we do in the Caribbean. And when we have a bunch of friends, even in America, everywhere, when you with people that you quote unquote trust, you use the word constantly. And then for me, it wasn't an attack at all when he used that word against me. It was just hey, pal, what you gonna get? And then all of a sudden we judge him and we put him out of the circle because of that. So
I don't think many people use that word in America. I don't think many white people use it in America, even if they're friends.
No white people use that. No. No white people would ever use that word with black people. But that's exactly the thing. Like we don't think about, like, because he was very sad by this, because all of a sudden he's no longer that close of a friend, and he was judged by this. And I decided ever since that day that I will never ever use that word ever again because of this. Like it makes a separation between us. Like if we want to move forward, we have to be together. We have to move forward together. We cannot like hold this grudge forever because this is not going to help us move forward. So and this put a distance between us ever since that happened. So like if I could change things, I would say that okay, when you make a joke about someone's accent, when you blame an entire community because of a few did something wrong in this community, so you're blaming everyone, or when you're mocking white people or blaming them for saying this or that, like you're not helping us come together. And my wife said, like, we should have ads on television, like some kind of civic ads where they're just like putting situations, small situations like this, and with a voice in the background saying, like, do you realize what this is doing to this kid when this situation happens? Like, and then people would be like, oh, I never thought about this way, you know, like. So you know, like I like to see things like this happen one day.
Can I say something?
Please.
I think I don't really relate or agree with the example with the N-word. The example I use is I have a couple of gay friends, and I know that in communities sometimes you use bad words as a endearing word, you know, like to say we are together in this, and I understand, but I'm not going to call her homophobic slurs to my gay friends, even though we are close, because I'm not part of their community, and I don't want to, you know, blur the line and the lines and everything. So I'll leave it to them, and it's perfectly fine. And it's, I think it should be the same with the N-word. But to come back to what you said earlier. About the accent, this is so real. About 2 years ago, there was a documentary in France, and it's not only to black people, actually. It's also something that happens to regional groups. I'll give you an example. That was a documentary about a school of journalism in Paris, and the head of the school said that he would never hire a student who has a thick Southern accent because it doesn't sound professional. There's really a very normative way to speak on TV, on the radio. And they were talking about that, and they were not even talking yet about young people coming from the French Caribbean or former French colonies who come to France. They speak French, but they have an accent. Everybody does. And they get mocked. They don't get hired. And it's not even, they will tell you, it's not even racism yet, but it's still a huge discrimination. Just the way you talk, the way you are. There's like a sort of pressure to incite you to really fit a model that is the perfect Frenchman, and you should not be too different. And if I was to answer, Patrick, your question, if I was the god or the king of France, I would try to be more open to, yeah, difference. It's not, we don't have to be one French caricature, and there's a lot of different ways to be legitimate and French at the same time.
Yeah, there's definitely this, again, I come back to the child of the Republic, where there is a normative thing which trends towards the majority, which is, you know, even if you want to go deeper than ethnicity, it trends towards Paris. France is a very centralized country in many ways. Melanie, anything you want to add about any of this?
Yeah. If I was queen of France, I would change the history books. I would spend a lot more time on the 19th and 20th centuries, the the great adventure of colonization, as some magazine called it, because I worked with children and teenagers. I taught about podcasting, and we talked, and they asked me a lot of about this time period, and they don't know about slavery or colonization. They don't even understand, because it's like one paragraph, and they don't know why it happened, how it happened, and everything I learned about the Black history, the French Black history. It's like Kivi, it's about the books I read when I was an adult already, and I think it's very, very, we fail people when we don't teach about this history, because people don't understand why racism is still happening. People even don't know why there's Black people in France. When I travel abroad, people asking me, "Oh, you're French? Oh, yeah, I didn't know there were Black people in France."
And there's millions of us.
Yeah, millions. And I think it's a really important part of the problem, because you can, if you don't recognize people and you don't recognize the history, then you don't understand what's the problem, and then. And then racism can flourish, and we can blame the immigration for all of our problems. When, in fact, not so long ago, my grandfather was a colonized person in Africa. He was living in the 40s in Ivory Coast, and he was colonized. He was marked on his body by colonization. So it's my grandfather. It's not that far, and I think we. It's our duty to teach people this history. It's very important.
I you know, there are two things I'm realizing as we're talking. One, which I was already aware of, about the media and how much differences are erased from French media, and not just TV. It's movies and everything. Not music. Music is very diverse, I would say. But when I look at English TV, it feels to me, at least, incredible how much representation there is and how normal it is. And I'm sure, you know, the UK has its own failings, but at least the representation seems much starker to me in the UK. And it shows how little of it there is in France. And the other thing is about history books. I never really thought about it, Melanie, but we teach, or at least when I was in school, which was not yesterday, it was a while ago, but it was the Revolution, the French Revolution, and then World War II, in broad strokes. That's the two periods you focus on. There's a little bit of everything else, but very, very, very little. Essentially, you can say no history of colonization. And I didn't, you know, that's the thing. I didn't even think of it. I'm only now thinking of it now because you're bringing it up, which is crazy. It's insane.
But, yeah. We learn about Napoleon, but we don't learn about the Black Code and the slavery. And yeah, we don't even learn that after the revolution, just after the revolution, slavery was abolished and then reestablished later by Napoleon, which is crazy. I learned that when I was an adult already. So yeah, I think there's a problem.
All right, we're going to soon switch to the French summary of this conversation. We didn't really talk about police violence. You mentioned it, Kevi, but we could do a whole episode about that part alone. But I think.
Sure.
I feel like that is covered a lot on other media. So if that's what you want to look into, you have other opportunities. To summarize, my impression after having talked with you for a little bit is that in the U.S., there seems to be a lot of, and I reference the U.S. a lot because it's a common point of reference for, I think, people everywhere around the world, and a lot of the audience for this show is American. But in the U.S., there seems to be a lot of active discrimination and violence against Black people and Black communities. And in France, is it fair to say that you feel erased? That's the image that sticks in my mind. Is that a fair way of summarizing it or not?
I would say that there is definitely violence, but ignorance is much bigger in the way that if you're a tourist and you go to Chicago or New York for the first time, you are not going to be surprised to see black people because you saw black people in American movies. When you come to Paris or you come to Marseille and you see a lot of people of African descent, you're like, oh, wait a minute. I thought we were in Europe. What is this? I've seen a bunch of French movies and I barely see any black people. What is happening there? So there is that. There is the fact that with this sort of colorblind Republican behavior, France is basically hiding the minorities under the rug, I would say.
And when you say Republican, just again for the benefit of our American audience, it's not right wing of the it's the from the Republic.
Republican, liberal, and socialist do not mean the same.
Definitely not. All right. Anyone wants to add anything before we move on to the French part? Okay. Just before we do, actually, can you give me your Twitter accounts if you have a Twitter account so that if the audience is interested in following you, they can find you easily? I'll put them in the show notes as well, but if they stop listening. Mélanie?
I'm more... Yeah, oh, okay. Sorry, Mélanie.
Mine is Baby Melo. So baby like baby, M-E-L-A-W.
Okay, Baby Melo. Kevi, you're not on Twitter?
Yeah, I'm much more active on Instagram. So it's at Le Paris Noir, the Black Paris, Le Paris Noir.
Okay. And Yann?
Yeah, I'm on Twitter. It's Yann Allais, Y-A-N-N-A-L-E-T.
Y-A-N-N-A-L-E-T. All right. So that's going to be it for our English portion. We're going to move on to the French portion, a little bit shorter. But thank you for listening. And we'll talk to you in the next episode. OK. Donc maintenant, c'est en français. Donc on va. J'espère que certains d'entre vous ont écouté quand même la partie anglaise et que vous allez. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, qui ne parlent pas assez bien anglais, on va essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on a dit. Ça va être dur, mais on va essayer. Est-ce que peut-être que je vais demander à Mélanie de commencer. On parlait donc de la. Je sais pas la condition. Je vais commencer peut-être par une question, parce que est-ce que on peut dire la condition des personnes noires en France ou est-ce qu'il faut dire des personnes de couleur ?
Alors, moi j'ai un avis assez tranché sur ça. Il ne faut pas avoir peur du mot noir. Je sais qu'en France, on a un peu de mal, on préfère dire black ou on tourne un peu autour. Moi, je préfère dire noir parce que, en plus, personne de couleur, ça, c'est un terme qui est assez chargé historiquement. On n'a pas eu la séparation comme aux États-Unis avec les fontaines colored et white, mais de couleur, pour moi, c'est un terme très vieilli qui représente pas très bien en fait la modernité et qui est aussi une manière de se cacher un peu derrière son petit doigt et de pas vouloir dire le mot noir. Donc moi, je dis la condition noire. D'ailleurs, il y a un très bon livre de Papendaï qui porte ce titre et qui parle des Noirs de France.
Donc, d'accord. Donc, je vais dire si ça vous convient être noir en France, finalement. Oui, Kevi, pardon, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, ouais, je voulais dire que, pareil, quand je parle français, j'insiste plutôt sur le mot noir. Après, parfois, quand je veux inclure d'autres personnes racisées, parfois, j'ai tendance à dire personnes de couleur. Mais c'est un peu un américanisme qui vient de people of color, POCs. Donc, noir, quand on parle des afro-descendants, ça me va très bien.
Oui, Yann, je vois que tu te démutes. Tu as quelque chose à ajouter ?
Non, du tout. D'accord. Je comprends tout à fait ce qui est dit avec ce malaise d'utiliser le mot noir. Je le remarque constamment et je trouve toujours ça très, très surprenant. Là, est-ce que je peux le dire ou pas ? C'est chargé, mais oui, noir.
Disons que pour moi, en tant que blanc, forcément, j'essaye de prendre des pincettes et je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, enfin, des gens qui sont venus chercher cette partie de l'épisode qui sont peut-être offensés par ce genre de, comment dire, de précautions. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je suis sûr que certains vont finir par écouter. Je pense qu'il faut... En fait, quand on est face à des mouvements comme ceux-là qui sont justifiés par l'histoire... il faut un petit peu d'humilité et franchement, ça coûte rien de dire est-ce que vous préférez ci ou ça. C'est pas nous qui sommes concernés, je parle en tant que blanc. Qu'est-ce que ça change si on dit nous, personne de couleur ou personne noire, si le groupe concerné, et ça s'applique à toutes les minorités, à énormément de choses, si le groupe concerné dit écoute, pour nous, ce terme est chargé, donc je préférerais que tu dises ça. Je veux dire, il y a des choses pires qui se passent dans le monde et dans nos vies. Donc, bref, on pourrait partir sur tout un débat sur ce sujet aussi. Mais revenons au cœur du sujet. Donc, personne noire en France, on a vu énormément de choses sur les États-Unis, sur la condition des communautés afro-américaines aux États-Unis. On entend beaucoup de choses aussi sur les communautés noires en France. Vous, dans votre vie, quel est votre sentiment sur la situation et la condition de ces communautés et de ces ethnies? Commençons peut-être par Mélanie. Je te laisse la parole.
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'organisation politique noire en France, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc, c'est, je pense aussi, ce à quoi fait référence le corps des médias quand il dit il faut pas comparer la France et les États-Unis. L'histoire est très différente. L'esclavage a eu lieu sur le sol des États-Unis. Donc quand il y a la lutte pour l'abolition a eu lieu, puis plus tard pour les droits civiques a eu lieu, il y a eu vraiment le besoin en fait de créer des mouvements politiques noirs. Alors qu'en France, nous c'était un peu délocalisé. Nous c'était un peu loin. C'était dans les Antilles. C'était en Afrique. C'était pas sur le territoire de la métropole. Donc on a pas cette organisation politique d'une communauté noire en France. Mais pour autant, je pense que il y a les générations. Moi, pour moi, c'est plus générationnel. C'est vrai que mes parents, et je pense qu'on est beaucoup de personnes entre 20 et 40 ans dans ce cas, c'est nos parents étaient plutôt dans l'assimilationnisme, dans le sens où ils nous disaient il faut bien travailler à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut avoir un boulot, et puis tu n'auras pas de problème. Le racisme, c'est que parce que c'est sûr que si tu traînes dans la rue et si tu fais des conneries, oui, tu vas être victime de racisme. Mais si tu suis le modèle républicain, tu vas t'élever dans la société et tu ne seras pas victime de racisme. Et je pense qu'énormément en fait, de personnes pensaient comme ça, de personnes immigrées en fait, de première génération.
C'est un peu l'idéal républicain, finalement.
Voilà, tout à fait. Ils ont vraiment adhéré en fait, à cet idéal-là. Tout en à côté, subissant des actes ou des termes racistes, mais en se disant c'est pas grave, je baisse la tête et je continue. Ce qui compte, c'est d'arriver à mon objectif. C'est vrai que nous, on est né en France en fait, et toute une génération et toute la nouvelle génération qui s'est aussi beaucoup mobilisée lors de la manifestation d'Adama Traoré. Moi, j'y étais et j'ai vu des gens qui avaient 16-17 ans. Et en fait, je pense que quand on est né en France, on ne comprend absolument pas de quoi on nous parle quand on nous dit oui, mais d'où tu viens et les gens comme toi. En fait, on se dit mais c'est quoi le problème? Je suis là, je suis français, je suis française. Pourquoi vous me parlez de... Enfin, pourquoi je suis encore victime de racisme? Et pour le coup, politiquement, les choses commencent à s'affirmer. C'est-à-dire que y a pas mal en fait de nouveaux mouvements. De nouveaux collectifs qui se montrent, qui sont un peu les descendants et même quand même très en rupture par rapport à SOS Racisme, ce qu'a pu être SOS Racisme dans les années 80 ou Touche pas à mon pote, qui étaient vraiment des associations qui mettaient en fait les blancs au centre, puisque Touche pas à mon pote, c'est moi je suis blanc et sois pas raciste avec mon pote. Là, on est vraiment dans des choses beaucoup plus politiques qui en plus ne se réclament d'aucun parti en particulier. C'est pas affilié au Parti communiste.
J'ai une question à te poser à ce propos, parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Est-ce que tu crois pas que, à propos de Touche pas à mon pote ou de SOS Racisme, est-ce que tu crois pas que c'était une étape nécessaire, justement, pour faire prendre conscience aux gens, à la majorité blanche, du problème?
C'était peut-être une étape nécessaire, mais en tout cas, c'est très intéressant de constater que c'est une étape qui s'est faite dans une espèce de enfin, pour moi, c'est du néocolonialisme dans le sens où on prend la parole aux personnes concernées et on dit « t'inquiète pas, je vais t'aider à t'exprimer et à faire entendre tes revendications parce que toi, tu n'en es pas capable, même si je sais que les intentions étaient sûrement pas celles-là, mais dans les faits, c'est ça qui est ressorti, et je pense que c'est aussi contre ça qu'une nouvelle génération aujourd'hui se dresse, la nouvelle génération qui crée des collectifs comme Moissy, qui est un collectif de femmes afrodescendantes, dit bah, vous nous avez pris la parole assez longtemps, maintenant laissez-nous nous exprimer, et voilà ce qu'on a à dire. Et forcément le ton est plus politique et le ton est plus marqué, parce que en plus, il y a cette expérience derrière d'avoir vu nos parents se faire coopter par SOS Racisme et Alicra, qui aujourd'hui sont beaucoup moins... Je vois comment ils essayent d'agir par rapport maintenant à la situation, mais ils n'étaient pas du tout, par exemple, au front du combat pour Adama Traoré ces dernières années. Donc voilà, c'est ce décalage que je perçois aujourd'hui.
Kevi, je te laisse la parole.
Beaucoup de choses à dire. Tu veux qu'on résume un peu ce qui a été dit?
Oui, vas-y, disons que c'est un petit peu l'idée de faire un état des lieux, peut-être aussi, c'est compliqué et puis on n'a plus forcément énormément de temps, mais peut-être aussi donner de la visibilité à ton expérience de personne noire en France à des gens qui ne la voient pas, parce que ils sont pas dans cette situation-là, mais
j'insisterai encore une fois sur le problème d'invisibilisation des personnes noires en France. Quand je parle d'invisibilisation, ce que je veux dire, c'est que je ne parle pas que de voir des noirs à la télévision, de prendre quelques petits exemples comme ça, de les placer et puis de dire voilà, vous voyez, maintenant il y a plus de noirs, ça va mieux. Surtout que c'est ce qui a été fait ces 10-15 dernières années. Mais je parle de laisser des espaces de création, que ce soit dans le domaine académique, dans le domaine culturel, pour que les personnes noires puissent se réapproprier leur propre récit. Ce que je veux dire, je vais prendre un exemple très, très, très précis. Un film comme Get Out, qui est sorti il y a 3-4 ans, je ne sais pas si tu l'as vu, un film de Jordan Peele, qui est un film de pop culture, un outil de pop culture, c'est un film d'horreur. C'est un point de vue qui est centré sur les Noirs et qui arrive, en fait, d'une certaine façon, à faire une critique des gentils blancs libéraux. Ce film, en France, serait complètement inimaginable. Parce que, justement, l'idée de laisser, en fait, les Noirs raconter leurs propres histoires sans concession, sans compromis, etc., on n'en y est pas encore tout à fait. Et je pourrais multiplier les exemples dans plein de domaines différents. Je pense que cette histoire d'Adama Traoré, de George Floyd aussi, met en avant d'autres frustrations qu'on ne peut pas exprimer le reste du temps, le reste de l'année. Donc, avec un peu l'attention qui est donnée aux Noirs, parce que c'est un peu le moment. Oui, il y a plein de revendications différentes qui sortent, mais c'est parce que d'habitude, on ne nous entend pas tant que ça.
C'est marrant parce que avec le bénéfice du recul sur la partie en anglais qu'on a fait jusqu'avant, je me rends compte que ce dont vous parlez, la manière dont je l'interprète, à la fois toi et Mélanie, c'est le bah encore une fois, c'est ce qu'on disait en anglais, le fait le manque de visibilité, quoi. Tu mentionnais, Mélanie, dans la partie en anglais, le fait que l'histoire de la communauté des peuples noirs en France, on la connaît pas. Et le fait qu'on on passe sous silence la colonisation, c'est pas juste une question politique de « on veut pas dire qu'on a fait quelque chose de mal, machin », c'est que, en fait, on ne connaît pas l'histoire, et donc on nie un petit peu, et là j'y mets mes mots, peut-être que c'est pas exactement la meilleure manière de le dire, mais on nie une partie de la vie et de l'existence de toute une partie de la population française.
Ouais, complètement, complètement. Et puis, en fait, c'est là qu'on se rend compte que tout est lié, en fait, que c'est comme un grand puzzle, parce que ça relie directement ce que nous dit Kevin sur le fait que les étrangers arrivent en France et sont étonnés de voir des Noirs et des Arabes. C'est que, en fait, tout est lié, parce qu'on ne raconte pas cette histoire, on ne la représente pas à la télévision, ni dans les films, ni dans les œuvres, où les seules œuvres, en fait, qui ont la chance d'être produites ne sont pas celles qui mettent en valeur cette réalité. Et du coup, on arrive... on arrive à un total décalage avec la réalité. Et en plus, on se prive d'outils statistiques qui nous permettraient de mesurer. Parce que voilà, on dit en France, les statistiques ethniques sont interdites, ce qui est pas totalement vrai en fait, parce que ce qui est interdit, c'est le fichage ethnique, c'est de dire Monsieur Machin est noir et Madame Bidule est chinoise. Mais on peut tout à fait, d'ailleurs le CSA le fait en quelque sorte, on peut tout à fait comptabiliser le nombre de personnes représentées à la télévision et dire, voilà, à la télévision...
En augmentation.
Hein ?
Ce chiffre qui est en augmentation. Le nombre de personnes, de minorités ethniques
est en augmentation.
Mais moi, je pense qu'on n'a pas de problème de quantité, on a des problèmes de qualité.
C'est la suite de mon argument, en fait. C'était que non seulement on est en décalage quand même sur la quantité, mais la qualité, c'est là aussi ce que rejoignait Aïssa Maïga avec le collectif Noir n'est pas mon métier. C'est que qu'est-ce qu'on voit à la télé quand on voit des Noirs à la télé ou au cinéma français, j'insiste bien sur français, c'est des prostituées, c'est des délinquants, c'est des gens qui sont en marge de la société, c'est des gens qui ont
des anti-amis.
C'est des rôles très très caricaturaux, très stéréotypés, qui renforcent encore plus une espèce d'effacement, d'absence, quoi. Et quand il y a présence, c'est une présence à laquelle les gens ne veulent pas s'identifier, ne peuvent pas s'identifier. Les personnes blanches ne peuvent pas s'identifier et les personnes noires n'ont absolument pas envie de s'identifier à ça non plus. Donc en fait, on est vraiment en France. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est dans une amnésie organisée, quoi. C'est-à-dire, non seulement on ne se rappelle pas du passé, et du coup, la réalité décalée qui découle de ça est complètement évacuée aussi, quoi.
Yann, tu es très sage et silencieux. J'ai même pas présenté les gens. Je me suis rendu compte que je les ai présentés en anglais, mais pas en français. Du coup, vous savez peut-être pas de qui il s'agit. On a Kevin Donna et Mélanie Wanga du podcast Le Chip et Yann Allais, mon ami de longue date, qui était notamment dans le Rendez-vous Tech à l'époque, exilé au Canada. Donc on a évoqué pas mal de choses. Est-ce que je sais que toi, ton expérience est peut-être un petit peu différente, mais est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu penses de toutes ces
idées? Écoute, moi, ça résonne beaucoup. C'était dans mes notes aussi ce que dit Mélanie sur la colonisation et l'histoire. Tu sais, quand tu vis en Guadeloupe, quand tu grandis là-bas avec tous tes amis antillais et que tu vas en cours et qu'on te dit nos ancêtres les Gaulois, ça fait bizarre en fait. Tu dis, et puis il y a rien en fin de compte qui t'explique d'où tu viens vraiment, quoi. Tu sais, t'entends parler des Arawaks, tu entends parler du triangle, mais c'est très très vague et c'est sous forme de paragraphe, quoi, effectivement. Donc ça, c'est pour pouvoir éduquer les gens, et puis c'est là que je pense qu'il y a vraiment j'arrive pas à me projeter dans cette solution au problème qui est de, il faut imposer notre voix en fin de compte. C'est-à-dire que voilà, on entend les blancs, maintenant il faut entendre les noirs, et puis c'est comme, j'ai l'impression que c'est comme un rapport de force.
Mais il existe ce rapport de force, qu'on le veuille ou non, il existe déjà, non?
Ouais, mais tu sais, c'est comme tout à l'heure, juste avec le mot noir en fait, où la majorité des blancs ont du mal à le dire. J'ai vraiment l'impression qu'on est et ça date pas d'hier. On est dans une situation où on marche sur des œufs en fait quand on est blanc. Et donc du coup, faut faire très attention à ce que tu dis. Faut pas, parce que c'est très rapide là que tu vas te faire taxer de raciste là en fonction de ce que tu veux dire, alors que t'as peut-être quelque chose qui a du sens, là, que tu veux dire, et c'est pas parce que t'es raciste ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, c'est un mélange qui est explosif, parce que quand tu fais l'utilisation, t'as un rapport de force là avec les associations antiracistes, et que je regarde des comédiens comme Michel Leeb ou même les inconnus, tu sais, dans les années 80, les blagues qu'ils faisaient sur les Antillais et tout, qui me donne des frissons aujourd'hui. Et donc, ils se disaient des choses à l'époque, ils ne se disent pas maintenant. Et Dieu merci, parce qu'il y a eu ce travail de force là où on a dû imposer. Tu n'as pas le droit de dire ci, tu n'as pas le droit de dire ça. Donc, les choses se sont améliorées en termes de racisme ouvertement dit à la télévision ou dans les séries là. Donc, je comprends que ce soit nécessaire de le faire, mais ma crainte finalement, c'est que si tu vas dans une direction où je vais constamment te fliquer quoi finalement pour que tu puisses faire attention à X, Y, Z quand tu parles de nous. J'ai l'impression que ça ne va générer que de la frustration, en tout cas chez certains.
Chez la majorité.
Qui vont juste se taire, ne rien dire. Et c'est comme ça que, ben, surprise, on a Trump qui est président, tu vois. Parce que t'as toute cette communauté qui disait rien, mais qui n'en pensait pas moins. Et qui, du coup, comme il n'y a pas eu de discussion, de dialogue, et de vraiment, tu sais, c'est Malcolm X, là, qui disait. Puis Malcolm X, c'était pas un enfant de cœur, tu sais. C'était quelqu'un d'assez, enfin, il avait des solutions assez musclées, mais qui disait que la seule solution pour se sortir de ce truc-là, c'est que franchement, qu'un blanc et un noir puissent s'asseoir sur la même table et que le blanc puisse dire ce qu'il a envie de dire là, sans heurter la sensibilité du noir, et que le noir puisse dire ce qu'il a à dire sans heurter la sensibilité du blanc, et qu'il n'y a que qu'on va pouvoir avancer là, en fait.
Ça je suis d'accord, mais pardon.
C'est simplement ce que je veux dire, hein, c'est que il faut que les deux parties puissent, parce qu'il y a tellement de préjugés, il y a tellement d'ignorance qui explique en fait contre les inepties puis les décisions de vote qui sont prises, parce que c'est basé sur l'ignorance, parce que comme le disait Mélanie, l'histoire n'est pas enseignée, etc. Mais il faut que les deux parties puissent échanger et réaliser leur bêtise de chaque côté pour avancer et avoir une conclusion productive. Mais si c'est ferme là parce que je vais c'est mon tour maintenant de parler et puis maintenant on va faire comme ça, je pense pas que ça va régler quoi que ce soit.
Mais je comprends ce que tu dis, mais j'ai l'impression que tu te projettes dans un monde idéal où ça c'est possible. Et de tout ce que je vois et ce que j'apprends, oui, ça serait super que les deux parties puissent s'asseoir et être entendues de la même manière. Mais aujourd'hui, ça serait super, mais on n'est pas dans cette situation. Quand il y en a certains qui parlent, on dit « Ah bah oui, quand même, il a raison, monsieur Bichou. » Et de l'autre côté, si c'est la personne de couleur ou la personne de la minorité, c'est la même chose pour d'autres minorités, eh ben on a tendance à moins l'écouter. Et ce que je crains dans ce que tu dis, même si évidemment je le respecte, c'est que ça serve d'outil et d'excuse à ceux qui ont plus de représentativité et plus de pouvoir pour dire, et j'en parlais un petit peu en anglais, ah voilà, Yann il a dit que ça serait mieux de faire comme ça, donc je vais faire des accents, tu vois, je vais faire des accents qui vont heurter les gens et je vais dire des petits termes un petit peu racistes, mais bon, ça va, c'est bon, on peut plus rien dire, tu vois. Et c'est ça que je crains dans la manière dont tu présentes les choses, Yann. Mais peut-être que, bon, je dis ça, peut-être que je peux laisser la parole à Kevin et Mélanie aussi.
Moi, je veux bien rebondir sur ça parce que je trouve que c'est intéressant, mais je pense effectivement, Patrick, que tu mets le doigt sur quelque chose qui est la parole, en fait, des personnes blanches et la parole des personnes racisées n'est pas entendue de la même manière et ne s'exerce pas de la même manière dans l'espace public. Un exemple qui me vient là, qui est un exemple assez récent, c'est Rokhaya Diallo qui tweetait en fait les extraits vidéo de ses interventions sur le plateau de LCI où elle était sans cesse interrompue en fait dès qu'elle prenait la parole pour exprimer son point de vue, qui était pour le coup très étayé de faits, de dates, c'est un propos solide, où elle expliquait notamment que la police française avait été plusieurs fois condamnée par la Cour des droits de l'homme, etc., etc. Et en fait, elle était interrompue en face par un journaliste blanc qui lui disait « Mais vous dites n'importe quoi, taisez-vous, je ne suis pas d'accord avec vous. » Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vivant dans une société dans laquelle on est, qui est à majorité blanche, une société ex-puissance coloniale, les personnes en fait qui sont racisées ne sont pas écoutées, ne sont même pas autorisées à dire certaines choses. On peut aussi prendre l'exemple de Camila Jordana qui dit « j'ai peur de la police » et qui, une semaine après, reçoit une plainte de la police parce qu'elle a osé dire qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Donc, pour moi, On a mis le doigt dessus aussi quand on parle de domination, parce que c'est exactement ça, c'est un rapport de force, c'est un rapport de domination qui est encore, et qui l'est depuis très longtemps, hein, depuis plusieurs siècles, en faveur en fait d'un groupe dominant qui a imposé à un groupe dominé une manière de vivre, une manière de voir le monde, une histoire même. Voilà, on en revient aussi à l'histoire. Et donc, quand on prend la parole et qu'on n'est pas, et qu'on ne fait pas partie du groupe dominant, c'est très difficile d'être entendu, c'est très difficile de s'exprimer et c'est très difficile d'être pris au sérieux. C'est là aussi, on a des procès en « mais de toute façon, vous n'êtes pas objectif ». Et l'objectivité, c'est quoi alors? Ben, l'objectivité, c'est le point de vue du dominant. C'est le point de vue de la personne qui a le pouvoir et qui a la parole. Parce que la parole, prendre la parole, en fait, c'est prendre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a cet enjeu d'interruption et de couper la parole. Quand on coupe la parole à quelqu'un, on lui reprend le pouvoir. Donc voilà, ce truc des conversations, je trouve que c'est intéressant. Mais il faut bien prendre en compte tout ce qu'il y a autour et tout ce qui fait que ce n'est pas une personne noire et une personne blanche en face. Elles discutent et puis on va arriver et tout le monde va dire ce qu'il veut. Non. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup plus d'enjeux derrière aussi, quoi.
Attention, quand je dis ça, je pense qu'il y aura toujours des gens racistes, en fait. Ça, c'est comme il y aura toujours des machos, il y aura toujours globalement des cons. Mais c'est pas à ces gens-là auxquels je fais allusion. Moi, je parle vraiment de, tu sais, ton voisin, ta voisine ou. Des gens que tu rencontres en soirée ou quoi que ce soit. Moi, ce que je constate j'écoute au Canada, en tout cas, et puis ça fait 10 ans que j'ai pas vécu en France, là, mais même à l'époque, je constate que ils font extrêmement attention. Les gens que je fréquente, en tout cas, font extrêmement attention, sur ce qu'ils disent, et se gardent de faire la moindre remarque que ce soit. Alors que je pense que les deux parties doivent pouvoir communiquer, échanger. Et pour que ce soit fructueux, pour que après ils puissent dire à leurs enfants, ah ben écoute, réagis comme ça, enfin que ça puisse.
Tu penses que ça devient contre-productif au final, en fait.
Que l'information puisse circuler des deux sens. Je parle pas du gars qui est un raciste renforcé sur telle radio et qui te coupe la parole. C'est ça, c'est des cas. Mais je te parle vraiment dans ton quotidien là, les gens que tu fréquentes. Je le vois constamment là, pratiquement au quotidien, cette peur d'exprimer le moindre point de vue qui pourtant, si jamais c'était dit, on pourrait t'expliquer pourquoi ce que tu viens de dire c'est une connerie, ou au contraire ça pourrait te faire réfléchir et puis te faire voir les choses d'une perspective différente. Mais c'est comme une étiquette globale sur les blancs. Maintenant, vous vous taisez, c'est au global, hein, et puis c'est ça la réalité, en fait. Et je comprends que dans un pays comme la France, qui est majoritairement blanc, c'est extrêmement compliqué, là, surtout dans les médias où on te coupe la parole sans arrêt, c'est extrêmement compliqué. Mais je parle vraiment dans ton quotidien, là, quand tu vas en soirée ou tu invites des amis, faites attention à ça, là, d'avoir une discussion dans les deux sens pour éduquer les deux côtés, parce que y a, pour moi, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir avancer, là. C'est là qu'est la majorité de la population. C'est pas les 3-4 personnes qu'on voit tout le temps à la télé.
Mon impression que, et puis je vais donner la parole à Kevin juste après, mais mon impression c'est que pour que ça puisse fonctionner, il faut que la personne qui fait partie du groupe majoritaire soit prête à écouter. Et ça c'est très 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 difficile parce que quand tu fais partie de ce groupe majoritaire, en l'occurrence dans notre contexte, c'est les blancs et en plus les hommes blancs. Eh ben, t'as tellement l'habitude d'avoir ton point de vue que c'est difficile d'accepter que peut-être que les choses sont pas comme tu les as toujours apprises. Et du coup, on a une réaction, j'en parlais la semaine dernière dans l'épisode avec Gunnar Carlson sur Minneapolis, et moi j'en ai été, ça a été le cas pour moi, c'est très facile d'avoir une réaction, d'être vraiment sur la défensive quand on va dire... Tu as une vision du monde, alors on dit c'est privilégié, mais tu as une vision du monde qui n'est pas celle de... Tu penses que c'est normal et que ça s'applique à tout le monde. Et c'est pas le cas. Et quand on dit ça, tu as un mouvement de retrait et tu dis, mais attends, tu veux dire que ce que j'ai fait, c'est pas... Je le mérite pas, ce que j'ai obtenu, je le mérite pas. Mais va te faire foutre, quoi. Moi, j'ai travaillé aussi dur que tout le monde. Et cette réaction, je crois qu'il faut le dire, et là, je parle à la majorité des auditeurs qui est certainement, je crois, blanc, la majorité est blanche. C'est normal d'avoir cette réaction de recul, mais il faut être capable de passer outre et justement d'écouter ce que dit la personne en fait. Vraiment d'écouter, c'est un truc que j'essaye de faire autant que possible dans cette émission, d'écouter les gens, même s'il y a des chances qu'on ne soit pas d'accord. et d'écouter et d'accepter qu'il y a là aussi peut-être au moins une part de vérité. Et ça, c'est un truc qui est très difficile à faire. Et c'est pour ça que je crois, c'est pour ça que je dis, Yann, tu te mets dans une situation idéale où les gens tu vois, sont prêts à accepter une vérité qui n'est pas leur identité, le cœur de leur identité. Et si tout le monde pouvait le faire, ça fonctionnerait. Mais je crains que ça ne soit pas le cas et que tout le monde puisse le faire. Mais je comprends ce que tu veux dire aussi. Ouais. Je t'ai entendu dire oui, oui, deux fois. Donc, je vais partir du principe que tu es complètement d'accord avec tout ce que je viens de dire. Oui. Et je vais te donner la parole.
Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps là. Ouais. Donc, et je pourrais encore pendant longtemps. Ouais. Mais oui, des deux côtés, il faut. Mais si je te parle à toi, Patrick, je sais que tu es quelqu'un de raisonnable et qu'on va pouvoir discuter ensemble. Et puis, je ne pense pas que ce soit exclusif juste avec toi. Là. Je ne
suis pas la seule personne raisonnable en France,
là,
tu veux dire.
On peut raisonner. donc voilà, en tout cas c'est mon espoir que ce soit possible hein, avec la majorité des gens sensibles qui nous entourent. On s'entoure pas de cons, on s'entoure de personnes avec qui on s'entend bien et avec qui on peut avoir des discussions intelligibles, mais aussi avec qui on peut à qui on peut apprendre des choses dans les deux sens. Donc c'est comme ça aussi que l'éducation doit se faire là. Voilà, le simple fait que tu réalises maintenant, ben ouais, c'est fou quand même qu'on n'explique pas l'histoire des Antillais aux Antilles. Ben peut-être que ça, tu vas le répéter à quelqu'un d'autre et que cette personne va le répéter à quelqu'un d'autre et que ça va faire effet boule de neige. Et puis voilà quoi. C'est avec cette discussion intelligible qu'on a entre nous. Je pense que c'est une grosse partie de la solution.
Je voulais ajouter un petit quelque chose sur le plan individuel, les rapports amoureux, amicaux, etc. J'ai pas de leçons, de conseils, d'ordres à donner aux gens. Les gens gèrent leurs relations, comment ils s'appellent, etc. entre eux, et chacun a sa vérité. Par contre, là où je suis plus pessimiste, ou en tout cas où je suis pas convaincu, c'est que des amis par exemple blancs avec qui on peut avoir des rapports tout à fait cordiaux, d'amitié très sincère, etc., lorsqu'il arrive des moments où il y a une énième polémique raciste, où il y a des violences faites à l'encontre des minorités, parfois justement on est surpris par le silence aussi de ces amis là qui ne veulent pas en parler, qui... Et effectivement, le fait qu'on soit amis, toi et moi, etc., ne veut pas dire que lorsque Éric Zemmour prend la parole pour dire une énième connerie raciste, que tu vas trouver des alliés ou du soutien dans tes amitiés, tu sais, personnelles, de copains que tu as, mais qui n'est pas prêt à prendre un risque ou à ouvrir la bouche ou te défendre. Ou y a... ouais, je pense que cette question-là, en fait, de se dire qu'on va tout régler entre nous d'un point de vue individuel, ne va pas régler des grosses inégalités, des injustices et des rapports.
Mais il est là, le pouvoir électoral. C'est les gens qui votent. Ce n'est pas les quelques personnes. Alors oui, ils ont une forte influence parce que ce sont les médias. Mais le pouvoir électoral, là, c'est nous. Et donc, si tu veux influencer le pouvoir électoral des gens, il y a les médias, mais il y a aussi toi, là, avec ton cercle d'amis, tu peux éduquer ces gens-là.
Enfin,
tu peux
leur faire...
Tu vois ce truc que tu as vu à la télé, là, c'est des conneries. Et puis, tu leur expliques pourquoi, là, en fait. Et je pense que c'est pas... Je ne vois pas ça comme quelque chose d'insurmontable ou d'inatteignable. Je pense que, voilà, c'est juste... Tu dis, ben voilà, ça, là, c'est voilà, je le montre par A plus B, là. Voilà pourquoi ça fonctionne comme ça.
Je voudrais juste rajouter sur ça que, en fait, c'est vraiment intéressant parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, en fait, pendant plusieurs années, de me dire, en tant que personne qui était majoritairement entourée de personnes blanches dans le cadre de mon travail et même dans ma vie personnelle, en fait, mes amis, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, en fait, ça a un coût. Ça a un coût émotionnel, ça a un coût psychologique très fort. En soirée, par exemple, avec cinq personnes. Bon, moi, je cumule les tares parce que je suis aussi féministe. Donc, du coup, je débattais sur le sexisme et sur le racisme. Et en fait, je me suis retrouvée dans plusieurs fois dans des situations où j'avais trois personnes en face de moi qui me disaient non, mais je comprends pas ce que tu veux dire, je suis pas du tout d'accord. Donc après, on part dans des débats où pendant 45 minutes, j'essaie d'expliquer que mon humanité, en fait, j'essaie de négocier mon humanité, d'expliquer que les personnes noires, voilà, ce qu'elles peuvent subir, voilà ce que c'est le racisme, que le racisme, c'est pas juste se recevoir des cailloux dessus parce qu'on est noir, c'est aussi des choses plus. Plus légère, mais qui en fait au quotidien peuvent faire de manière régulière. Et en face, on me dit mais n'importe quoi, mais les personnes qui font ça, elles sont pas racistes, c'est juste qu'elles se posent des questions, c'est juste que machin. Donc en fait, tu te retrouves à négocier ton humanité pour après, au bout de une heure, la personne te dit ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Et ça, sur plusieurs années, étalé sur plusieurs années avec une centaine de personnes, ça a un coût moral non négligeable. C'est-à-dire qu'en fait, on est fatigué de devoir nous-mêmes expliquer, de nous voir nous-mêmes faire le travail en fait, émotionnel et intellectuel d'éduquer les gens. Et c'est pour ça que maintenant, moi, je me fais payer pour ça. Je ne le fais plus gratuitement. parce que je considère qu'en fait, c'est un travail. En fait, ces personnes-là, elles pourraient tout à fait googler les questions qu'elles se posent ou acheter un livre. Mais si c'est moi qui dois expliquer à la personne exactement de quoi on parle et les raisons, je ne le fais pas gratuitement. Parce qu'après, c'est moi qui me retrouve à pleurer à minuit dans mon lit parce qu'en fait, quelqu'un a dit que le racisme n'existait pas malgré mes explications pendant 3 heures.
Et que c'est toi qui es folle.
Et voilà. Et en plus, ce truc de paranoïa où je me dis, bon, est-ce que c'est moi qui suis allée trop loin? Comment j'aurais dû réagir? C'est trop demandé, je trouve, aux personnes qui sont dans les groupes minoritaires. Non seulement de subir à la fois l'oppression, quand je dis oppression, c'est les choses légères comme les choses plus lourdes, et en plus de devoir expliquer leur oppression ad vitam aeternam à des personnes qui ne sont pas toujours prêtes à l'entendre.
Mélanie, je t'interromps. C'est
juste l'oppression émotionnelle que ça peut avoir, c'est tout.
Je t'interromps pour aller dans ton sens. Un auteur américain que j'aime beaucoup, Ta-Nehisi Coates, dans un podcast la semaine dernière, disait c'est aux blancs de lire Martin Luther King maintenant. C'est-à-dire que cette espèce de truc où on va demander aux personnes qui subissent le racisme d'aller faire un travail de missionnaire, etc., c'est bon. Il y a des tutos, il y a plein de choses qui existent, des séminaires, des livres, des vidéos sur YouTube, et tout est à disponibilité. Et en fait, les trucs de non-violence, d'histoire noire, etc., c'est peut-être aussi aux blancs d'aller les lire et d'écouter la parole de James Baldwin, de Martin Luther King, de plein d'autres mecs, femmes, français, autres, américains, etc. Il y a des choses qui sont faites, et parmi les plus beaux textes du XXe siècle, parmi les meilleurs orateurs, il y a des Malcolm X. Allez écouter des speeches de Malcolm X et vous me remercierez, même si ça vous fait saigner les oreilles. C'est d'un point de vue sur la forme, c'est rien que ça, c'est des choses extraordinaires. Donc c'est presque un service qu'on va rendre aux blancs en disant allez lire des trucs de noir, vous serez surpris, parce qu'il y a vraiment du génie intellectuel dans les trucs qui ont été produits au XXe siècle et au XXIe siècle.
Et on a vu beaucoup de... Alors, bon, on va conclure l'émission. On n'a pas parlé de violence policière, comme je le disais dans la partie en anglais. Il y aurait 1 000 épisodes à faire sur ce sujet aussi, mais il y a d'autres endroits où on peut avoir ce type de conversation, en France et ailleurs. On a vu beaucoup sur les réseaux sociaux des collections justement de livres, parce que beaucoup de gens commencent à se dire bah, peut-être qu'il faut qu'on s'informe et qu'on apprenne sur le problème. Si on va essayer de rendre les choses simples, s'il y avait un livre qui soit français ou américain ou autre que vous devriez conseiller aux gens qui veulent essayer de s'éduquer un petit peu, est-ce qu'il y a un livre qu'on peut recommander ou c'est trop difficile ?
Moi, si je dois retenir un truc qui n'est pas trop long, et comme je suis un peu chauvin, je vais recommander Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, qui se lit très très rapidement. Je pense même qu'il doit avoir une version audio sur YouTube, et c'est dans les années 50, et c'est une époque où on est à la veille des décolonisations. On est aussi après la Seconde Guerre mondiale, et les puissances européennes, surtout la France, doivent des choses à leurs colonies. Et Césaire, qui à l'époque est un jeune député martiniquais, se permet de faire une sorte de bilan ou de droit d'inventaire de 3 siècles de présence française sur d'autres continents. Et c'est sans concession. Aujourd'hui, ça passerait pas. Alors imaginez qu'il commence sa démonstration en disant que la violence raciste, enfin que l'hitlérisme, le nazisme trouve ses racines dans le colonialisme. Donc ça passait encore plus mal à l'époque dans les années 50, et il a osé le faire, et le texte est magnifique, parce que c'est un des plus grands poètes francophones du XXe siècle. Donc allez lire ça et vous rendrez un service.
Mélanie, est-ce que tu as une autre recommandation ou la même?
Alors moi, je vais attirer la lumière sur les femmes noires, en fait, qui sont toujours à la pointe hein, des mouvements progressistes, toujours à la pointe du combat pour l'égalité, que ce soit sur le féminisme ou sur le racisme, et qui en plus doivent faire face dans les milieux noirs au sexisme des hommes noirs, et dans les milieux féministes au racisme des femmes blanches. Donc c'est toujours intéressant. Moi, j'ai un livre qui m'a beaucoup influencé quand il est sorti, qui s'appelle Black Feminism, anthologie du féminisme africain-américain de 1975 à 2000, qui est dirigé par la professeure Elsa Dorlin. Donc il est traduit en français, en édition L'Harmattan. C'est vraiment en fait une sélection d'articles fondateurs de l'afroféminisme afro-américain, en fait. Donc c'est des textes de bell hooks, c'est des discours, c'est des manifestes de collectifs de femmes afro-américains, en fait, et qui défendent en fait la spécificité. Donc c'est là où on rentre dans ce terme qui est très à la mode en ce moment, mais l'intersectionnalité, qui est le fait que les oppressions, quand on est une femme noire, on subit à la fois le racisme et le sexisme. Donc c'est vraiment des textes passionnants, intéressants, et c'est là, moi, que je me rends compte du travail qui a été fait avant nous, par les générations avant nous. On a l'impression à chaque fois de réinventer l'eau chaude quand on dit « oui, le racisme, machin », et en fait on se rend compte que 50 ans avant nous, il y avait déjà des collectifs qui parlaient de ça, il y avait déjà des gens qui évoquaient la non-mixité, il y avait déjà des combats et des discours en fait qui sont restés d'une modernité à toute épreuve. Donc lisons ces personnes qui se sont battues pour nous en fait, et reconnaissons en fait les combats qui ont eu lieu pour pouvoir continuer à avancer et à réaffirmer toujours cette lutte, quoi.
Merci. Donc Black Feminism, et pour le discours sur le colonialisme, les deux seront dans les notes de l'émission. Yann, est-ce que il y a quelque chose que tu veux ajouter, ou est-ce que on conclut? Je te laisse la dernière parole.
Non, je dirais que sur la même note des recommandations, je vous recommanderais d'aller un peu sur YouTube et de regarder quelques discours de James Baldwin. Je l'ai découvert récemment, et un auteur américain noir homosexuel dans les années 60. Donc lui aussi là, il cumule aussi à cette époque, et pourtant on l'invitait dans des débats avec son aisance, dont sa façon de parler, d'exposer les points. C'est un gars qui est vraiment hypnotisant quand il parle. Il a écrit de nombreux livres que j'ai rachetés dans ma wishlist d'Audible, mais je ne les ai pas encore lus, donc je ne peux pas les recommander. Mais en tout cas, il y a quelques extraits, James Baldwin, sur YouTube. Là, allez regarder, c'est vraiment saisissant, sa façon de parler. Là.
Je valide. Je dirais même qu'il faut lire, un essai autobiographique qui s'appelle Equal in Paris. Et raconte comment il a passé une semaine en prison en France, à Fresnes, et les conditions de détention en France.
Ça marche. Equal in Paris, tu dis.
Equal in Paris, ouais.
Ok. Eh bien, merci à tous les trois. J'espère que ça aurait été utile à certains. Oui, pardon, Mélanie, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, je dis merci.
Oui, d'accord. Ouais. Ben, merci à vous. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté la partie en français, que Kevy est sur Instagram sous le pseudo Le Paris Noir pour ses visites touristiques centrées sur l'histoire du Paris Noir.
C'est ça.
Mélanie Wonga est sur Twitter Baby Mello. Les liens sont dans les notes de l'émission. Et Yann Allais sur Twitter. Merci. Il n'y a pas vraiment de façon simple de conclure, donc j'espère que ça aurait été utile, comme je le disais, à certains. Et puis j'espère que travail ne s'arrêtera pas à quand vous aurez terminé d'écouter cette émission, mais qu'il faut effectivement, si moi il y a une chose que je retiens, c'est qu'il faut garder l'esprit et les oreilles ouvertes et être prêt à écouter les gens, vraiment, à vraiment les écouter. Pas juste à les laisser parler, mais à les écouter, à les entendre. Dans le contexte de cette émission et du contexte actuel, mais dans tous les contextes. Ça ne veut pas forcément dire... Parfois, je parle à des gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord, mais je les écoute et je les entends. Et ça m'apprend toujours des choses. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Je vous remercie d'avoir écouté. Et si vous écoutez l'émission en anglais, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Et puis sinon, dans les autres podcasts que je produis. À très bientôt. Au revoir.